Je suis heureux d'apporter le message pour cette première série, les prières de la Bible. Et à chaque année, chaque début d'année, comme Sophie l'a dit, à la Nouvelle Vie, on commence par une série sur la prière qui nous encourage, qui nous défie, qui nous rappelle des choses parce que c'est trop important. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous savez que la prière est une des bases de la foi chrétienne. Si tu veux être en relation avec Dieu, il faut que tu pries. C'est le moyen que Dieu a choisi pour être en relation, pour communiquer, pour parler et discuter avec l'humanité. C'est un privilège incroyable. Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui, selon la parole de Dieu, venir apprendre à celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas comment prier, qui a peut-être plein de questions. Enseigner pour pouvoir aussi approfondir notre vie chrétienne. Pour ceux qui prient depuis des années, on croit qu'encore aujourd'hui, on va aller chercher une nouvelle dimension de la prière. Et également pour développer notre relation avec Dieu. C'est pas juste, oh, j'ai pris un stage en 1997 de la prière, c'est bon, je suis à jour. Non, il y en a en 97, tu n'étais même pas né. Mais aujourd'hui, on va ensemble découvrir quels sont les principes, quelles sont la puissance de la prière, parce que ce n'est pas quelque chose de mystique. Non, c'est très puissant. Oui, c'est spirituel, mais c'est très puissant et ça agit pour nous, pour nos vies, pour nos familles. Et tout le monde ici, je ne vous ferai pas lever la main, mais tout le monde ici a besoin de prier Dieu. Peut-être pour des situations où vous dites « Ah, il y a des choses qui se sont passées en 2022, puis là, je veux juste remercier Dieu. » Vous le faites par la prière. Certains disent « Moi, j'ai tellement de défis et tellement de miracles à recevoir que j'ai besoin justement de la prière pour venir chercher ensemble, en communauté également, ce que Dieu a prévu pour nous. » Alors la prière, c'est vraiment quelque chose qui nous connecte à Dieu. Et on veut vous défier également à faire un jeûne et prière cette année. Peut-être que vous n'avez pas une discipline de jeûne, mais c'est très biblique le jeûne. Si quelqu'un me demanderait c'est quoi la différence entre la prière et le jeûne, la prière nous connecte à Dieu. Le jeûne nous déconnecte du monde. Et c'est important d'avoir cette discipline de prière, de jeûner également. Le jeûne, ce n'est pas de dire « Ah, je vais tellement souffrir que Dieu va encore plus me donner une faveur. » Non, ce n'est pas essayer de lui dire « Regarde, tellement que je souffre, tellement que j'ai faim, alors la bénédiction va être grande. » C'est pour se concentrer à entendre la voix de Dieu, à lire et à découvrir des révélations de Dieu. Et je crois qu'il y a des révélations qui ne se reçoivent que dans le jeûne et la prière. Alors c'est pour ça qu'on vous encourage, peut-être dans ces 3 jours là, de prière la semaine prochaine, venez avec nous, venez avec toute l'Église, tous les sites de la Rive-Sud vont être rassemblés à Longueuil. On ne le fait pas souvent, mais quand on le fait, c'est très très important. Alors soyez là, on a vu Sophie qui disait, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, si vous n'avez pas mangé, allez au Tim Hortons. Normalement, vous n'allez pas au Tim Hortons quand vous jeûnez, ok ? Il n'y a pas beaucoup de monde qui a réagi. On va faire un enseignement sur le jeûne. Normalement, tu te coupes, mais peut-être tu vas te couper d'un repas, de 2 repas, d'une journée. Peut-être tu te dis, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je veux être défié à commencer une nouvelle discipline spirituelle. Faisons-le ensemble, parce que lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Est-ce que je peux entendre un amen ? Alors, on va ensemble regarder aujourd'hui à la puissance de la prière. Et la prière, c'est le moyen que Dieu a choisi pour communiquer avec nous. Et vous savez, au plus on passe de temps dans la présence de quelqu'un, au plus on le comprend de mieux en mieux. Avez-vous des amis avec qui ça fait des dizaines d'années que vous êtes ensemble, ou un couple qui est ensemble depuis des années? Une seule parole, une seule phrase, un seul mot sur un ton, avec un silence ici et là, tu comprends exactement le paragraphe qu'elle veut te dire. Avec mon épouse, des fois c'est ça, là. On est en discussion avec des gars, on rigole, on fait un truc sarcastique, elle me regarde et puis ça change tout de suite. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Elle n'a pas besoin de m'écrire un grand texto et puis de m'expliquer en 4 points, voici ce que je veux. Juste un son, une respiration. Vous avez déjà vu, là? Celui-là veut dire beaucoup. Et en fonction des situations, c'est comme c'est trop long, c'est pas assez, arrête de dire ça. Il y a comme, je ne suis pas le seul, hein? On a comme un sixième sens qui discerne une voix spirituelle de notre épouse ou de nos amis depuis longtemps. Mais au plus tu es dans la présence de quelqu'un, au plus tu reconnais cette personne. Si demain je vous appelle sur votre cellulaire, je dirais « Salut, c'est moi ». Vous allez dire « C'est qui ?» Mais si j'appelle quelqu'un de ma famille, ou juste le fait « C'est moi », je reconnais exactement qui c'est. Il y a comme une communication, une communion qu'on peut avoir avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on l'a mérité et puis on est tellement « waouh », on est tellement privilégié, parfait, qu'on a accès à Dieu. Non, c'est lui qui nous a donné accès. Nous étions indignes, mais il est venu nous chercher. Pas pour nous abandonner dans nos péchés, non, au contraire. Il est venu nous chercher pour être en relation avec lui. Comme un père qui a perdu son fils pendant des années, qui est parti en fugue, mais qui un jour revient à la maison. Tu n'es pas là en train de lui dire, regarde tout ce que tu as manqué, voici tout ce que j'ai gardé, voici. Non, non, non. Il est juste là en train de dire, voici, tu étais parti, tu étais mort, mais aujourd'hui, tu es revenu à la maison et tu es vivant. C'est pour ça que la prière, ce n'est pas juste une option dans la vie chrétienne. Ça fait partie d'une base et on croit qu'au plus on entend la voix de Dieu, au plus ça dirige notre vie. Ceux qui le savent, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui parle encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'encourage à aller, selon la parole de Dieu, dans la prière parce que, et c'est le titre de mon message, Dieu a réponse à tout. Dieu a réponse à tout. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe la situation dans laquelle tu es, sache que Dieu a réponse à tout. Parfois, il ne répond pas de la manière dont on voudrait. Mais Dieu répond même dans son silence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te défier à dire, si tu attends une réponse spécifique de la part de Dieu, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire? Parce que ce que tu lui demandes, c'est tout à ton honneur, c'est vrai. Mais sa réponse est bien meilleure que ce que toi, parfois, tu voudrais. Des fois, on prie en disant, Seigneur, dis oui. Seigneur, je t'ai demandé de dire oui, donc j'attends ton oui. Mais des fois, ce n'est pas forcément oui que Dieu veut. Il veut peut-être dire oui, mais pas maintenant. Mais il ne peut pas te dire oui maintenant parce que tu vas croire que c'est maintenant. Vous me comprenez? Il y a comme un côté où nous devons, et en prière, aller chercher, aller faire connaître à Dieu nos besoins, à aller venir devant lui, mais en attendant que lui réponde comme lui le veut, parce que sa volonté est parfaite. Et vous le savez, la prière est la chose la plus simple au monde. Et je le dis vraiment avec une vérité, avec une assurance, la prière, c'est la chose la plus simple au monde. Parler à Dieu, c'est la chose la plus simple. Mais combien savent que parfois cette chose la plus simple peut devenir dans certaines situations la chose la plus compliquée de la vie? Et parfois, ce n'est pas seulement oh, un jeune chrétien qui ne sait pas encore prier, c'est difficile pour lui. Non, non, non. Parfois, c'est les plus anciens chrétiens qui savent tellement comment fonctionne la prière que des fois, c'est tellement sec. Tu sais les phrasés, tu sais les choses, tu sais même la référence biblique de quelle page ça se trouve cette prière-là. Mais des fois, tu as l'impression que ça ne va pas plus haut que ce plafond. Et dans cette vie de prière-là, Dieu a une réponse à te donner. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais Dieu a réponse à tout. Dis-le avec moi, Dieu a réponse à tout. C'est facile de venir faire connaître à Dieu nos besoins, mais parfois c'est compliqué de savoir quelle est la direction qu'il veut pour moi. Comment avoir la victoire dans ce combat-là? Et on va regarder au travers du livre des juges dans la vie de Gédéon. Gédéon est un de mes personnages préférés. Et quand j'étudiais encore sa vie dans les dernières semaines, il y avait encore une révélation que Dieu me donnait et me montrait à chaque fois. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement forte. Elle est comme un trésor que tu ouvres et à chaque fois, il y a des choses nouvelles, différentes pour toi chaque jour pour que Dieu te révèle son plan. Alors, on va regarder au travers de sa vie. Et laissez-moi, avant de lire le texte, vous donner un peu le contexte du livre de Juges 6. Si vous avez votre Bible, ouvrez dans Juges chapitre 6. Et on va regarder la vie de Gédéon. Gédéon a vécu 1200 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un bout de temps par rapport à nous. Mais Gédéon, lui, alors qu'il va avoir une discussion avec Dieu, vous savez, dans la Bible, il y a des héros de la foi, des hommes et des femmes qui ont eu le privilège de parler face à face avec Dieu. Aujourd'hui, dans la prière que nous allons étudier, on parle à Dieu, mais de manière spirituelle. Certains l'ont rencontré, certains l'ont vu par l'ange de l'Éternel, au travers Jésus-Christ. Mais il y a, dans la vie de Gédéon va discuter avec Dieu. Dieu va venir, il va discuter avec Gédéon. Et alors qu'il va lui demander une mission, on va voir que Gédéon, même si Dieu lui demande face à face, il a parfois les mêmes problèmes que nous à croire et à recevoir ce que Dieu lui dit. Alors on va regarder, puis ça me faisait sourire, parce que de 1200 ans avant Jésus-Christ à 2023 ans maintenant, après Jésus-Christ, les problèmes de l'humanité restent les mêmes. Les technologies changent, mais le cœur de l'homme est tellement tortueux qu'on a besoin de revenir à la parole. Et la même parole et la même vérité qui était bonne pour Gédéon, 1200 ans avant Jésus-Christ, est la même parole et la même vérité pour nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On va voir le contexte donc de Juges 6. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'est éloigné de Dieu depuis des années. Et ce peuple-là, alors qu'il s'est éloigné de Dieu, il a désobéi à Dieu, il a été sous l'oppression des Madianites. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait un peuple qui venait, la Bible nous dit, ils étaient nombreux comme des sauterelles. Ils arrivaient et ils ravageaient tout sur leur passage. Et le peuple de Dieu, le fait qu'ils aient désobéi à Dieu, qu'ils aient voulu choisir leur propre voie et lui dire « Regarde, on n'a pas forcément besoin de toi, on ne veut pas forcément t'obéir », se sont directement éloignés de la bénédiction et de la protection de Dieu. Ce qui fait que, à ce moment-là, les Madianites viennent et ils ravagent tout sur leur passage. Le peuple de Dieu se cachait dans les montagnes, dans les cavernes. Toute leur récolte était volée. Tout leur volaille, leur bétail, leur troupeau étaient décimés. À chaque fois que les Madianites arrivaient, le peuple était dans une désolation complète. Et là, le texte commence, Juges 6, alors que le peuple est sous l'oppression des Madianites depuis 7 ans. Et alors que Dieu entend le cri du peuple, après 7 ans, le peuple crie à Dieu en disant, on se repent, on revient de nos mauvaises voies, mais viens nous délivrer. Et à chaque fois dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait un homme, Dieu envoyait une femme, Dieu envoyait quelqu'un pour venir libérer son peuple, qui était une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ qui allait, lui, venir nous délivrer pour l'éternité. On n'a plus besoin d'un homme qui vient nous libérer parce que Jésus est venu. Combien sont reconnaissants pour ça? Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était Gédéon qui, lui, est appelé le libérateur. Et on va regarder où quand Dieu vient chercher Gédéon et vient lui dire « Voici la mission que tu auras pour lui ». Et on va voir combien dans cette discussion, comme on pourrait dire aujourd'hui pour nous, la prière, le temps de prière, Dieu vient venir lui donner des révélations, lui poser des questions. Mais Gédéon, ça va être un petit peu plus compliqué que ça de dire juste « Oui, me voici, envoie-moi ». Êtes-vous prêts pour le texte? Juges 6, chapitre 11 à 16, si vous n'avez pas votre Bible, le texte va venir ici, on le lit ensemble. Voici, le point, c'est que Gédéon est en train de se cacher là en ce moment, il est en train d'essayer de faire à manger, et l'ange de l'Éternel, ce qu'on appelle une christophanie, il y a Dieu lui-même qui vient et qui vient lui parler. Alors on regarde ça. « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains du Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Vous n'avez pas l'audio dans votre Bible, mais moi je l'ai. C'est pour ça que je sais exactement. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. On va lire une autre partie du texte bientôt, mais il y a quelque chose de fort dans ce texte et qui va nous parler à nous aujourd'hui, parce que la parole de Dieu est véritable. Elle transcende les générations, transcende les cultures, transcende les âges. Et la vérité que Dieu vient dire à Gédéon, il vient nous la dire pour nous aujourd'hui. Dieu a réponse à tout, même quand tu doutes de lui. La première vérité de ce texte, c'est que même quand tu doutes de lui, Dieu a une réponse à te donner. On voit, hein, l'Éternel vient et il le salue, il fait juste le saluer. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et tout de suite, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, alors pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Il est en train de dire, à la seule salutation de Dieu à Gédéon, Gédéon, il démarre au quart de tour. Vous connaissez des gens qui connaissent ? Tu fais juste dire un mot, puis « Ah, attends. » Remettons les choses au clair. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ça, tout ce mal-là nous arrive ? Et pourquoi tout le bien et les miracles qu'on nous a promis ne sont pas encore arrivés ? Gédéon, à la seule salutation, il arrête en disant, « Ok, on va remettre les choses dans le contexte. En ce moment, l'Éternel nous a abandonnés. » Est-ce que toi, c'est un peu ton cas en ce moment ? On dit, il y a une thématique sur la prière qui commence. Il y a des victoires spirituelles à prendre. Et puis toi, tout de suite, on s'arrête. Dieu, en ce moment, ne m'entend pas. Parce que voici tout ce que je vis en ce moment qui est difficile. Voici tout ce que j'entends des témoignages des autres qui ont des victoires. Mais moi, en ce moment, je ne vois rien dans ma situation. Et là, tu commences à douter de Dieu. Et on t'encourage à prier. Et puis toi, tu te dis, ok, juste dans les bases. Qu'est-ce que je peux faire? L'Éternel, j'ai l'impression qu'il m'a abandonné. J'ai l'impression qu'il m'a même quasiment jamais entendu. Où est tout ça? Tu fais la liste de tout ce qui va mal dans ta vie. Tu fais la liste de tout ce que le bien qui aurait dû arriver selon ton plan, mais que tu te dis en ce moment, je vois pas ce qui se passe. Gédéon, exactement dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Voici tous les témoignages que j'entends. Voici, on m'a dit qu'il délivrerait notre peuple, mais en ce moment, on est sous l'oppression des Madianites. Peut-être tu as l'impression en ce moment que quand tu pries, Dieu ne t'entend pas, que Dieu t'a abandonné, que tu n'es tellement pas digne qu'il ne veut même pas prêter l'oreille à toi. Laisse-moi te dire, Dieu a continué de parler à Gédéon, même si Gédéon commençait à douter de Dieu. Ça veut dire pour toi aujourd'hui, tu peux être vrai devant Dieu. Même si tu es frustré de certaines situations dans ta vie, l'Éternel n'a pas dit « Ok, tu veux la jouer comme ça ? Moi aussi, je suis vexé. Alors on ne se parle plus et puis c'est fini. » On a tous des amis comme ça, qui démarrent au demi-tour du quart de tour. Non, Dieu n'est pas comme frustré en disant « Ok, Gédéon, tu veux la jouer comme ça ? Eh bien, bye. Non, je vais chercher quelqu'un d'autre. » Non. Dieu continue de parler à Gédéon, même si Gédéon lui fait connaître sa frustration. Voici la vérité ici. Tu peux être vrai avec Dieu en prière, lui faire connaître tes doutes, lui faire connaître tes frustrations, lui exprimer même ta colère. Car lui ne change pas, il t'aime, il continue de vouloir se révéler à toi. Fais juste lire les psaumes dans le milieu de la Bible. Tu prends les psaumes, tu en lis un par jour, et puis tu vas voir le nombre de psaumes où David commence à dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut qui m'entend ? Regarde ce que je vis ici, j'essaye d'être le plus droit possible dans ma vie, et toutes les bad luck qui m'arrivent, et l'autre qui est mauvais là-bas, il prospère. Est-ce qu'il y a une justice ?» Mais à chaque fois, il revient en disant « Mais je continuerai de croire à l'Éternel. » Parce que mes doutes, si je crois en mes doutes, je serai encore plus dans le flou que si je crois en la parole de Dieu. Et même si je vois rien, je crois que cette lumière-là me conduira en dehors de la caverne quand il y aura plus rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais craindre aucun mal parce qu'il est là. Je sais pas combien de temps ça va durer cette caverne, mais je sais que si lui, il est là, j'ai juste besoin de savoir que sa parole est vraie et je vais suivre son commandement. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole de Dieu qui nous donne confiance en Dieu? Mais ce qui est important et intéressant dans ce texte, alors que je le voyais pour la première fois, c'est que Gédéon lui fait connaître des doléances. Alors pourquoi ? Il lui pose deux questions. Pourquoi toute cette bad luck m'arrive et pourquoi toutes les bénédictions, je ne les vois pas ? Et vous savez ce que Dieu il dit ? Il ne répond rien de ces questions. C'est fou parce qu'il ne répond pas à ces questions, mais il ne va pas non plus se justifier en disant « Ok, je comprends, regarde, en fait, la dernière fois que tu m'as fait appel et je t'ai... » Dieu lui explique pas. En fait, Dieu est Dieu. Il n'a pas d'explication et de justification à donner à Gédéon. Parce que tout ce que Dieu fait est pour le bien de son peuple. Même parfois quand il le corrige. Combien sont parents ici et savent que si tu ne corriges pas ton enfant, c'est pire que si tu le corriges en disant « Hey, tu peux pas faire ça, tu t'arrêtes là, tu vas être en conséquence s'il faut. » Et on a tous des moyens différents de corriger. Mais d'arriver à dire « Hey, tu fais pas ça, je t'arrête pour ton bien. » C'est d'aimer son enfant. Celui qui lui laisse tout faire, à un moment donné, il va se prendre un mur. Alors Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que tout ce qui est bon ici nous vient de Dieu. Et même si en ce moment tu dis, je comprends pas ce qui se passe, crois au-dessus de tout que Dieu est bon, qu'il est fidèle, que ce qu'il veut pour toi, c'est mieux que ce que toi tu veux pour toi. Alors même parfois quand Dieu ne se justifie pas, même quand il a un silence dans sa réponse, c'est quand même une réponse qui est meilleure que ce que toi tu voudrais qu'il dise. C'est pour ça qu'il faut que tu crois. Et ce que Gédéon va faire, c'est qu'il ne va pas se frustrer que Dieu ne se justifie pas parce que voici la réponse que Dieu lui donne. Quand Gédéon doute de Dieu, Dieu va simplement lui donner une parole. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu, la réponse de Dieu au doute de Gédéon sur Dieu, c'est « Fais-moi confiance. Je t'ai donné une parole, je t'ai donné un commandement, un ordre. Fais ce que je te dis de faire. Aie confiance dans ma parole et tu n'as besoin d'aucune autre réponse que fais-moi confiance. » Gédéon, à ce moment-là, avait la parole de Dieu de dire « Va ». Le commandement, c'est « Va » et « Va avec la force que tu as, va délivrer ». Notre parole que Dieu nous a donnée est dans la Bible. Aujourd'hui, on ne va pas forcément entendre Dieu audiblement nous dire « Voici », mais toute sa voix est comprise dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste, elle a été écrite il y a des millénaires, c'est pour ça qu'elle est désuète aujourd'hui. Non, sa parole est vivante. Lorsque tu lis, le Saint-Esprit ouvre tes yeux à des vérités qui se trouvent dans ces textes, dans ces lignes, parce que Dieu parle. Quand tu ouvres ta Bible, Dieu te parle. C'est pour ça que ne dis jamais que Dieu ne t'a pas parlé si ta Bible est fermée. C'est comme si tu attends un appel important et que ton sel est éteint. À un moment donné, la connexion ne se fait pas. Par contre, celui qui cherche en disant « Hey, je vais croire à ça parce que c'est la parole que je sais qui est vraie. » Et même si parfois je doute de Dieu, je veux croire en sa parole parce que toutes ses promesses sont parfaites, sont certaines. Et même si je doute d'elle, je veux pas mettre ma foi dans mon doute. Je veux mettre ma foi dans la parole de Dieu parce qu'elle a transcendé les générations, elle a transcendé les choses. Elle n'est jamais revenue à Dieu sans faire aucun effet. Et c'est ça, ma foi étant la parole de Dieu. L'antidote au doute sur Dieu, c'est de croire sa parole, c'est de lire la Bible. C'est pour ça que dans la prière aujourd'hui, on ne fait pas juste dire « Oh, c'est les prières de ce que tu veux ». Non, c'est les prières de la Bible, cette série. Il y en a beaucoup qui prient tout et n'importe quoi dans ce monde. Par contre, celui qui prie dans le nom de Jésus, au Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, c'est là que la prière a un effet. Avec persévérance, avec foi, c'est cette prière-là qui agrée le cœur de Dieu. Vous savez, on n'a besoin d'aucun autre nom que le nom de Jésus pour faire connaître nos besoins. Aucun être humain, grand soit-il, ne peut être notre intermédiaire entre Dieu. Nous, nous avons le commandement de prier le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, rempli de foi, selon la parole de Dieu. C'est pour ça que si tu fais cela, si tu dis « Seigneur, je me base sur cette parole », c'est pour ça qu'il faut la lire et la comprendre et la connaître. On ne fait pas juste la lire, il faut l'étudier. Je vous le défie en ce mois-ci. Mettez-vous à plus lire votre parole, à poser vos questions. C'est pour ça que si vous avez des questions, venez les poser. Il y a des groupes Nouvelle Vie, se rencontrent, ils parlent de la parole, ils se posent des questions. On grandit ensemble quand on se pose des questions, quand on a nos réponses. Mais il faut que nous puissions grandir dans une foi et une confiance encore plus grande dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va donner du gaz à notre vie de prière en disant « Je viens selon la parole et la promesse de Dieu ». Combien savent que c'est vrai? Si tu as un manque de foi en Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parfois, la réponse de Dieu, c'est son silence. Mais Dieu se révèle toujours dans son bon timing. Il n'arrive jamais en retard, mais il n'arrive jamais en avance non plus. Il arrive juste au bon timing. Et la parole de Dieu se révèle. Parce que vous savez, il y a quelques temps, je lisais avec Lenny, mon plus grand, un soir avant qu'il se couche, je prenais une Bible, un livre pour enfants chrétiens. Et alors que je lisais l'histoire justement de Gédéon, c'est même ça qui a comme donné le déclic de dire c'est exactement cette... J'étais en train de lire le livre de Gédéon dans une petite Bible pour enfants. Et Lenny a 8 ans, donc ce qui fait qu'on peut commencer à discuter de plus en plus des histoires de la Bible. Et à ce moment-là, vous savez, le livre de Gédéon, l'histoire de Gédéon est sur plusieurs chapitres. Puis ça peut être très long pour un enfant, ce qui fait que ces Bibles-là sont vraiment adaptées. Mais c'est en quatre phrases. Mais quatre phrases dites pour un enfant, la parole de Dieu est venue me révéler des vérités que je n'avais pas forcément vues dans la parole. Vous comprenez? Et parce que pourquoi? Ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, qu'elle soit dans une Bible pour un enfant ou dans la plus grande Bible d'études pour un prédicateur qui tourne autour du monde. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu veut se révéler bien plus que toi, tu cherches la révélation. C'est pour ça que partout, celui qui a le cœur ouvert, le désir d'entendre la parole de Dieu, même à travers une histoire pour un enfant, la parole de Dieu est puissante. C'est pour ça que je veux encourager et défier chaque jeune famille. En ce moment, tu as des enfants, on a des livres partout à la maison. Mais je veux quand même que chaque soir, on puisse se poser et parler de la parole de Dieu, parce que c'est des semences qui, un jour, porteront du fruit. Des fois, on peut se dire, « Ouais, mais il y a plein d'autres livres, et puis tout ça, et puis ça. » Mais il n'y a aucun autre livre comme celui-ci qui va bâtir des fondements solides, qui va nous donner l'opportunité de parler des sujets d'actualité qu'ils entendent à l'école, et je vous dis, ils en entendent à l'école, pour venir confronter en disant ça, là, je sais que c'est la vérité, parce que je l'ai vécu. Et même si j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions, ben regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va fermer le livre une fois qu'on l'a vécu, et on va prier ensemble. Et Dieu va se révéler à nos enfants, parce qu'il attend pas qu'ils ont 20 ans pour se révéler à eux. Jésus a dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, alors que nous, parents, nous puissions être encouragés à faire en sorte que nos enfants connaissent Jésus et le reconnaissent. Est-ce que je peux entendre un encouragement pour tous les jeunes parents de lire la parole et de chercher la révélation? En passant, vos enfants vont recevoir ça aujourd'hui pour les scolaires. Alors, faites les exercices avec eux, discutez avec eux. Le meilleur moment que tu peux investir dans ta journée, c'est de parler de Dieu à tes enfants. C'était la minute petite publicité. Caleb m'a payé cher pour que je fasse cette publicité. Je plaisante, c'est même pas que je le fais. Ne dis pas à Dieu qu'il est silencieux lorsque ta Bible est fermée. Ouvre ta Bible et Dieu a une révélation pour toi. L'antidote sur le doute de Dieu, c'est de croire en sa parole. Dieu a réponse à tout. 1, quand tu doutes de lui. 2, quand tu doutes de toi. On voit que Gédéon, une fois qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas forcément trop douter de Dieu, ok. Après, il va commencer à donner une autre excuse en disant, voici, mais c'est parce que moi, en même temps, je ne suis peut-être pas le bon gars pour la bonne job. Voici ce qu'il dit. Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. » On dirait que, oui, Dieu a réponse à tout, mais on dirait que Gédéon a des excuses pour tout. Je t'envoie, « Non, parce que je ne crois plus vraiment. Ouais, ok, ça c'est bon. Non, mais je ne peux pas parce que c'est moi. » Est-ce qu'on a, des gens ici qui se trouvent tout le temps des excuses quand Dieu les défie à quelque chose? Moi, je le suis. On a tout de suite le point pour pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Les 3 soirées de prière, ça tombe exactement quand la prochaine série Netflix, que j'attends depuis longtemps, ben elle sort le lundi, mardi, mercredi. Donc désolé, je n'aurai pas le temps, mais on pourra peut-être la remettre à plus tard. Non, on a tous des excuses. Ah oui, mais on a ci, on a ça, on a ça. Si tu ne mets pas en priorité le temps que tu mets à part pour Dieu, dis pas après que tu te dis, ah, mais je manque d'une passion. Et puis je ne te dis pas, si tu ne viens pas à ça, tu n'auras rien. Non, mais même dans ta vie, demain matin, est-ce que tu vas essayer de te lever un petit peu plus tôt? Est-ce que tu vas essayer de prendre du temps le soir, le midi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta capacité pour prendre plus de temps avec Dieu? Gédéon, lui, tout de suite, il a dit, garde, je suis pas le bon gars pour cette job-là. Je suis le dernier des derniers. Je suis dans la tribu de Manassé, qui était en fait une demi-tribu avec Éphraïm, qui venait de Joseph. Relisez l'Ancien Testament, vous allez voir combien c'est incroyable. Mais c'était une des plus petites tribus. Sa famille était la plus petite, la plus faible, la plus pauvre de cette tribu. Et lui était le dernier dans la tribu. Je vous fais pas un dessin, c'était le dernier. On n'a pas été chercher. Dieu a pas dit, hey, je veux celui qui a le plus d'influence. Celui... Non, Dieu allait exactement chercher celui qui pouvait en rien se glorifier de dire, c'est à moi que ça appartient. Et toute l'histoire de Gédéon, c'est Dieu qui va dire, je vais vous faire un pas de foi, vous allez devoir faire un pas de foi parce que ce n'est pas par vos forces que vous allez combattre, c'est moi, c'est mon combat, c'est ma victoire, mais je vais vous la donner. Et c'est pour ça que Dieu va se révéler au travers de la faiblesse de Gédéon. Combien sont reconnaissants que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser, pour nous parler, pour se révéler. Mais il vient nous chercher, il nous aime tel que nous sommes et il nous transforme à son image pour une victoire. Mais il faut qu'on se lève. Arrête de trouver des excuses quand Dieu dit, hey, c'est toi que j'appelle au ministère. C'est toi que j'appelle à commencer à jeûner cette année. Ça fait des années que tu veux une nouvelle manière de vivre, puis des patterns de s'arrêter, mais tu prends jamais être radical pour dire, tu as toujours des excuses. Arrête avec tes excuses et maintenant trouve les solutions dans la parole de Dieu, dans la prière. Dieu veut se révéler à toi. Amen. On peut encourager celui qui a besoin de l'entendre. Gédéon, à ce moment-là, avait pas le bon focus. Dieu est en train de lui dire, voici ce que je vais faire à travers toi. Puis Gédéon dit, non, mais moi, j'arrive pas. Dieu est en train de lui dire, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Arrête, change de focus. J'ai vu une vidéo cette semaine qui est drôle, mais qui nous rappelle que si tu as le mauvais focus, ça t'emmène à beaucoup de difficultés. On la regarde ensemble, c'est 30 secondes. Combien sentent sa peine? Et c'est sans doute un lundi matin, quand t'es pas prêt et que ça arrive. C'est son voisin qui était content. Lui, il avait prié pour que sa voiture soit déneigée, et puis voilà. Dieu transforme le mal. Non, bref. Tu peux perdre ton énergie à passer des années à te regarder toi, alors que Dieu dit, c'est pas à toi qu'il faut regarder, c'est à moi. Change ton focus. Et c'est pas que t'es tellement une mauvaise personne qu'il faut pas regarder à toi. Non. Dieu est en train de dire à Gédéon, toi, avant même de lui avoir parlé, toi, tu es un vaillant guerrier, un vaillant héros. Dieu te voit d'une manière différente de ce que toi, tu te vois. Mais parfois, on va choisir notre regard pour nous définir, alors que le regard de Dieu a été défini par la croix. Jésus a pris ta place à la croix pour que, devant Dieu, tu ne puisses plus être appelé comme un pécheur, quelqu'un de lointain, quelqu'un qui est tellement sale. Non. Si tu as reconnu à la croix par le sacrifice de Jésus. Si tu lui dis, par la croix, je reconnais que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu m'as réconcilié avec Dieu. Devant Dieu, il ne te voit plus comme un pécheur, il te voit comme un enfant de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que peu importe qui tu es, si tu viens à la croix et que tu te repens et que tu l'acceptes comme ton sauveur, devant Dieu, tu es blanc comme neige, tu es plus sale comme si... Non, tu as été nettoyé et tu peux te tenir devant Dieu en disant, je viens pas en mon nom, je viens dans le nom de Jésus. C'est pour ça que tu agrées les prières qui sont faites au nom de Jésus. C'est pour ça que quand je prie et que je dis, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie, je suis en train de m'aligner avec sa volonté. Et à la croix, Dieu a tout accompli et c'est ça que moi, je viens rappeler à mon âme. Est-ce qu'on peut applaudir la croix que Dieu nous a donnée comme un moyen de nous réconcilier avec lui? Arrête de dire « j'ai pas assez de foi ». C'est pour ça que la prière, c'est difficile pour moi. Arrête de dire « je suis pas comme lui, comme elle, j'arrive pas à chanter ou à louer ou à prier comme eux ». Arrête de te comparer, change le focus. Non, tu n'es pas assez digne, non, tu n'es pas assez parfait, mais lui est digne, lui est parfait et il a pris sur lui nos fautes pour que nous puissions recevoir sa valeur. Nous sommes co-héritiers avec Jésus du royaume de Dieu. Ça nous donne une clé et une autorité pour venir et de dire, c'est pas la prière, le feeling qui va me dire, c'est l'autorité en tant qu'enfant de Dieu de dire, Seigneur, tu entends ma prière et en ton timing, selon ta volonté, tu répondras. Mais c'est ça que nous devons venir chercher en tant qu'église. Parce qu'une église forte dans la prière, c'est une église forte dans sa communauté. Qui va aller, qui va bénir ceux qui sont loin, qui va aimer ceux que personne n'aime, qui va accueillir et qui va aller encourager, soutenir. Nous devons être une église forte et ferme dans la prière pour qu'ensemble, nous puissions voir les fruits qui vont en découler, les révélations que nous allons recevoir. On en a besoin pour nos vies, pour nos cœurs, pour nos couples, pour notre célibat, pour notre église. Nous avons besoin dans la prière de venir chercher tout ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous êtes là? La réponse de Dieu, là encore, à Gédéon, c'est pas « oui, je sais, t'es le dernier des derniers ». Non, non. Jésus est en train, Dieu lui dit « c'était pas à propos de toi, c'est à propos de moi ». L'Éternel répondit « mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme ». La réponse de Dieu, c'est « je serai avec toi », la même qu'il avait donnée à Moïse. Quand Moïse disait « mais non, mais devant le Pharaon, je serai qui, je serai où, je sais quoi, avec quoi j'irai ?»« Je serai avec toi ». T'as rien besoin d'autre que ma présence dans ton combat. L'antidote sur le doute de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'antidote sur le doute de moi, c'est la présence de Dieu. Il faut que tu comprennes que l'antidote au doute sur toi-même, c'est de comprendre la présence de Dieu avec toi dans tes tempêtes. C'est de comprendre que si tu es enfant de Dieu, Dieu n'est pas juste à côté de toi, il vit en toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne vis pas seulement seul dans ma vie, non. Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que la présence de Dieu doit enlever le focus sur toi, sur tes imperfections, sur « non, je ne suis pas capable » à « Dieu est tout-puissant » et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certaines révélations ne se reçoivent que dans la prière. Si en ce moment tu as besoin de direction, si en ce moment tu te dis « Seigneur, je ne sais pas qui je suis, j'ai besoin de me savoir », c'est dans la prière que tu auras ces révélations-là. Ma question pour toi, c'est que vois-tu quand tes yeux sont fermés en prière ? Quelle révélation Dieu te donne quand tu viens passer du temps dans sa présence? Alors que j'étais dans un parc il y a quelques années et je prenais mon temps au parc Michel Chartrand à Longueuil. Je me souviens encore du banc là où j'étais assis. Et puis j'étais comme, oh, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Je me posais des questions et puis tout le focus est sur moi. Puis je me disais pas, oh, je suis tellement fort que je vais changer les nations. Au contraire, je disais, je suis tellement faible, j'avais même pas à changer mon propre cœur. Mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Et j'aimais encourager les autres. Puis je pense que c'est pour ça que Dieu m'a appelé à être un prédicateur de la bonne nouvelle de l'Évangile, de faire en sorte que les gens entendent plus la voix de Dieu que la voix des mensonges. Mais parfois, moi, j'étais le problème. Moi, je pouvais encourager, mais moi, je n'arrivais pas à m'encourager par la parole de Dieu. Et je me souviens, j'avais mon cahier, c'était dans un temps de jeûne et prière. Et alors que j'étais là le midi, j'ai ressenti vraiment le Saint-Esprit me parler et puis me dire, écris sur ton journal tout ce que je dis que tu es. Je n'avais jamais fait cet exercice-là. Je ne suis pas quelqu'un qui commence à me dire, oh, okay. Mais là, j'étais comme, ok, Dieu veut vraiment me dire quelque chose. Et Dieu m'a rappelé qui j'étais en lui. Pas, Ben, Uten, tu es tellement grand. Non, non, non. Mais si Ben laisse la place à plus le Saint-Esprit dans sa vie, il sera transformé à l'image de Christ. Et ces problèmes-là s'en iront. Et ça, il le prendra. Et ces mensonges diminueront. Et là, je commençais à écrire tout ce que Dieu me disait par le Saint-Esprit. Ce n'était pas audible, mais vous le comprenez. Et si vous ne le comprenez pas, je vous encourage à aller chercher cette révélation. Parce que Dieu est ton Père et il veut te parler bien plus que toi, tu ne veux l'entendre. Alors quand tu mets du temps à part, quand tu vas dans sa présence en disant « Je veux faire taire le bruit autour de moi et je veux juste entendre ta voix. » Dieu parle. Dieu parle. Et quand je suis sorti de ce jour-là, j'étais comme « waouh, Dieu est venu me rassurer comme un parent que quand ton enfant il a un manque d'estime de soi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre du temps avec lui, tu vas lui dire « regarde combien t'es précieux ». Et c'est pas ta mauvaise semaine avec tes mauvaises notes qui vont définir ça. Non, regarde qui tu es. On a besoin, nous, de l'entendre de notre Père. Mais c'est dans la présence de Dieu que tu viens et comprendre que le focus n'est pas sur toi. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants, mais elle nous rapproche de celui qui l'est. Dieu va appeler Gédéon pour faire cette victoire-là. Mais Dieu ne va pas l'envoyer seul, et c'est mon troisième point. Dieu a réponse à tout quand tu doutes de lui. Dieu a réponse à tout quand tu doutes de toi. Mais Dieu aussi a réponse à tout quand tu doutes des autres. Juge 7, chapitre 2, versets 2 à 7. Alors que Gédéon a dit, « Ok, je ne veux plus douter de Dieu. je vais aller me battre contre Madian, et puis si tu m'appelles, j'y vais. Il a arrêté de douter de lui, mais même si ça a été un peu heureux pendant toute l'histoire, vous le lirez, là, c'est intéressant. Et je vous le défie. J'espère que vous avez compris qu'il faut que vous lisiez Juges 6 cette semaine. Lisez-le, vous allez voir combien Gédéon, encore là, à un moment donné, il est peureux. Dieu, il dit, vas-y, mais si t'es peureux, va avec quelqu'un d'autre. Dieu rassure Gédéon à chaque étape. C'est pas comme si qu'il a compris en un jour et puis que c'était fini dans sa vie. On a tous les mêmes struggles. Faut qu'on se rappelle des vérités tout au long de notre vie. Mais à ce moment-là, Dieu va lui dire, OK, avec le peuple, tu vas aller et tu vas faire une tactique pour aller prendre la victoire sur Madian. Ils sont là, leur campement est là, et dans la nuit, voici la tactique que tu vas faire. Tu vas aller les encercler. Et Gédéon, il sait que les Madianites sont plus de 130 000. Et le peuple, à ce moment-là, est même pas 50 000, le peuple d'Israël. Donc déjà là, les calculs, c'est wow, ils sont en plus grand nombre. Et Dieu va lui dire, tu vas aller combattre, mais tu ne vas pas y aller avec tout le peuple. Voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré, en parlant du peuple. Proclame donc ce message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Vous savez, le pep talk qu'un général de guerre va dire à ses armées avant d'aller en guerre, c'est pas celui-là que tu fais d'habitude. Et que celui qui a peur et qui veut pas combattre peut rentrer chez lui. Vous savez combien il est parti? 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, il n'en resta que 10 000. Imaginez la tête de Gédéon. C'est ça le pitch que tu veux me donner à une armée qui va en guerre? Et voici ce que Dieu va continuer. C'est comme quoi, à chaque fois que Gédéon est comme un petit peu décontenancé, Dieu il continue. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui-ci à propos duquel je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. À ce moment-là, Gédéon fait descendre le peuple qui reste, les 10 000 hommes. Il les fait descendre. Et à ce moment-là, il les fait boire. Il y a comme une rivière, il y a comme un lac. Et à ce moment-là, il y a 10 000 hommes, des 22 000, excusez-moi, 10 000 hommes qui viennent et qui se mettent à genoux et tout de suite, ils mettent la face dans l'eau pour boire, comme si ils avaient tellement soif. Et il n'y en a que 300 qui, eux, viennent, prennent l'eau dans leurs mains et le boivent comme ça. Et Dieu va dire, les 10 000, tu les renvoies chez eux et tu gardes que les 300 pour aller te combattre. J'imagine la tête de Gédéon. OK, ils sont 130 000, Seigneur, je te rappelle juste les calculs parce que tu as peut-être oublié à un moment donné. Déjà, nous, avec 32 000, c'était serré. 12 000 sont repartis chez eux parce que c'était les peureux. Là, il en restait 10 000. Bon, on peut encore faire quelque chose, mais tu en as ramené 10 000 chez eux. Il n'en reste que 300 personnes. Dieu était en train de dire, tout le peuple ne peut pas combattre avec toi pour cette victoire. Mais ce n'est pas Gédéon qui a fait la sélection de ces hommes, c'est Dieu qui a fait la sélection des hommes qui allaient entourer Gédéon. Et voici le point, il a dit au premier temps, les peureux rentrent chez eux. Le deuxième tri a été les insouciants rentrent chez eux. Un soldat n'était pas là pour mettre sa tête tout de suite dans l'eau et prendre. Non, ceux qui étaient, ils savaient qu'il y a des ennemis qui sont là en train d'essayer de nous voir. Donc on va prendre les précautions pour que même en buvant, on peut rester sur le qui-vive. La garde est restée levée. Ceux qui n'avaient plus de garde, les insouciants, « Ah, il y a de l'eau, on y va », ils auraient pu se faire tuer là. Dieu était en train de dire, les peureux et les insouciants, rentrez chez vous. Gédéon va aller combattre qu'avec un petit nombre, un petit groupe d'hommes qui vont aller se battre avec Gédéon, mais c'est avec eux que je vais donner la victoire. Tous ceux, écoute cette vérité, tous ceux qui t'entourent ne peuvent pas forcément t'aider dans tes combats. Mais Dieu veut placer des gens autour de toi qui seront solides pour toi dans la prière. Dieu va donner la victoire à Gédéon à travers son petit groupe. Aujourd'hui, on lance les groupes Nouvelle Vie. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on essaye de créer des nouvelles choses. Non, c'est parce qu'on veut être clairement biblique. Dans toute la Bible, on voit que Dieu se sert d'un homme, d'une femme, mais qu'il l'entoure avec un petit nombre de personnes pour avoir la victoire. Un de nos baptisés de l'automne dernier, je l'avais défié à lire la Bible. Et puis dans son petit groupe, il lisait. Et puis à un moment donné, il a lu Exode 20. Et puis à un moment donné, il voit que Moïse a la victoire quand il lève les mains au ciel. Et puis là, le peuple est dans la vallée. Mais Moïse, à un moment donné, il commence à être faible. Et puis il commence à être fatigué. Et là, Aaron et Hur viennent et ils l'aident à élever la main pour que la victoire puisse être faite. Mais lui, il me texte et il me dit, regarde, j'ai l'impression que Dieu est en train de me dire que il aurait pu donner la force tout de suite à Moïse pour lever ses bras, mais Dieu a donné la force à Moïse à travers Aaron et Hur. Ça veut dire que dans tes combats, si toi t'es faible, Dieu va pas forcément te donner la force à toi, mais il va la donner à son peuple, à l'église, à ton petit groupe, pour que ceux qui te connaissent et qui savent exactement, et là, à un moment donné, il y a un moment faiblesse, il faut qu'on aille et qu'on le soutienne. Dieu veut se révéler pas seulement à toi, mais à toi au travers des autres et aux autres à travers toi. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour de nous mettre des gens autour de nous? Alors que les musiciens me reviennent, il y a vraiment une tactique incroyable que Dieu m'a révélée pour la première fois, que Gédéon aurait pu négliger son petit groupe en disant « je voulais partir avec tout le peuple ». Vous savez, la semaine dernière, pour le premier dimanche de 2023, ici, on était 730 à l'église. Mais ce n'est pas les 730 personnes qui peuvent aller au combat avec toi et qui peuvent te soutenir quand tu es en ce moment dans la pire struggle de ta vie et que tu luttes en ce moment pour juste essayer de garder la tête sous l'eau. Dieu veut te donner la force, mais il veut que tu sois entouré. Dieu ne nous a pas créés ici sur cette humanité pour vivre et marcher seuls. Il nous a créés pour que nous puissions vivre en communauté. Non seulement avec la grande église et célébrer comme on l'a fait ce matin les victoires, mais les combats, il faut que tu les vives avec un petit nombre autour de toi. Est-ce qu'en 2022, tu vas marcher seul? Qu'en 2023, tu vas te dire « je ne marcherai plus seul ». Il y a des groupes qui sont là, on commence une nouvelle session, il y a des dizaines de groupes partout qui commencent, il y a des choses, il y a une place pour toi et il y a des gens qui sont là que Dieu a choisi pour que tu puisses être bien entouré. Gédéon n'a pas fait le tri, c'est pas juste « ouais, mais eux, je sais pas, j'aurais préféré un groupe de cette moyenne d'âge-là avec tel truc et tel... » Non, 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 Dieu il dit « c'est pas toi qui fais le tri, c'est moi qui mets les gens autour de toi. » Parce que selon ton tri, peut-être t'aurais pas eu besoin de ces gens-là et puis eux... Mais mon tri à moi sera toujours bon pour toi. Ne regarde pas le petit groupe que tu pourrais avoir comme « ouais, mais c'est pas assez ». Dieu, il dit, même si tu y allais avec toute l'Église universelle, tu serais pas assez. Si mon esprit à travers toi, c'est ça qui donne la victoire. Mon combat, c'est Christ qui l'a vaincu. Mais il veut me donner les armes et me donner la force pour pouvoir combattre le bon combat de la foi, pas tout seul, mais avec des gens autour de moi. Est-ce que tu négliges en ce moment un petit groupe que Dieu te dit, c'est exactement avec eux que tu vas avoir la victoire? La tactique que Gédéon a pris, et je vous le dis, c'est incroyable. Lisez Juges 6, s'il vous plaît, vous allez découvrir des perles. Le Madian et la nuit, les Madianites sont là, et Gédéon va dire, voici, les 300 hommes, vous prenez une trompette, dans la parole c'est la trompette, mais en fait c'est un corps. C'était des cornes de bœuf dans lesquelles normalement certains généraux soufflaient. Et là, ça faisait un son pour dire aux armées, c'est le temps de la guerre. Il va donner un corps à 300 hommes, avec un flambeau avec du feu, mais caché dans des cruches, dans des vases d'argile, des vases de terre. Et il va cacher la lumière pour aller encercler les Madianites. Et les 300 hommes, tu sais, ils étaient 130 000, mais il a placé des gens autour, partout, en cercle. Là aussi, c'était encore quelque chose. Qui fait partie de ton cercle en ce moment? Pour encercler l'ennemi, pour avoir la victoire, qui? Tout fait référence. Et à ce moment-là, Gédéon dit, quand je le dirai, parce qu'ils n'avaient pas d'armes, ils n'ont pas été avec des épées. Ils ont été avec la force que l'Éternel leur a donnée. Ça veut dire que le combat que tu dois vivre en ce moment, ce n'est pas le combat contre la chair et du sang, non, c'est un combat spirituel. C'est pour ça que tu as besoin des armes spirituelles. Et ton petit groupe, c'est exactement les soldats spirituels que tu as besoin autour de toi. Alors qu'ils étaient là, quand Gédéon a dit, maintenant, sonnez de la trompette, soufflez dans le corps, brisez les cruches et montrez le feu. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, les Madianites sont devenus complètement fous eux-mêmes. Ils ont été complètement confondus. Parce que normalement, quand tu fais une guerre, il y a juste 3-4 sons de corps qui parlent pour des sections. Mais jamais 300 corps, ça voudrait dire qu'ils sont des millions à combattre. Alors là, ces gens-là ont entendu des corps partout qui entouraient le campement. Ils ont dû dire, on est fini, il y a des millions de soldats en arrière. Et regardez les torches qui sont là, ils nous entourent. La lumière, en fait, la cruche a été brisée pour que la lumière puisse jaillir. Et les ennemis, Gédéon n'a même pas dû se battre. Ces hommes-là se sont comme entretués entre eux. Ils n'ont eu aucune personne à aller combattre. Ils ont juste eu à proclamer que la victoire, ils l'avaient déjà. Mais ce qui est fort, c'est que pourquoi pourquoi les cruches ont dû être brisées? C'est parce que la lumière qui était à l'intérieur était cachée par le vase d'argile. Mais lorsque c'était le temps, on va briser cela pour que la lumière puisse jaillir. Et vous savez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4:7? nous portons ce trésor en parlant de Christ, en parlant de sa lumière, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. La lumière que tu as à l'intérieur de toi doit jaillir, mais elle ne pourra jamais le faire sans que toi-même tu t'ouvres, sans que toi-même tu brises pour toi-même. Tu peux cacher cette lumière-là pendant longtemps, alors que Dieu veut dire à un moment donné pour la victoire, il va falloir que tu brises ce vase-là. Il ne peut plus cacher, il ne peut plus contenir la lumière, parce que ce feu-là va te donner la victoire. Il y a deux applications sur cela. Nous devons être morts à moi-même et vivants pour Christ. Je dois ne plus être défini par le contenant, mais par le contenu. Donc je dois m'ouvrir à Dieu pour que sa lumière me transforme et que je sois moi aussi la lumière du monde à mon tour. Mais également, tu dois t'ouvrir aux autres autour de toi. Pour ce que Dieu va mettre en lumière, tu ne sois plus esclave et isolé dans ce pattern-là, dans les choses que tu vis et que tu sais. Au travers de ton petit groupe, tu vas avoir une lumière qui va être libérée quand tu vas t'ouvrir. Et ce texte-là, réellement, m'a donné encore une plus grande confiance dans ce que Dieu fait. Des fois, ça nous choque. Mais pourquoi il fait cette stratégie-là? Mais elle est toujours la meilleure pour nous. Est-ce qu'en 2023, tu vas dire « je vais continuer à marcher seul » Est-ce qu'en 2023, tu vas dire « je vais continuer à cacher la lumière que Dieu veut, et puis je vais me confesser à personne, je vais poser mes questions à personne, je vais vivre mes doutes tout seul. » C'est la pire chose que tu pourrais faire. Je te défie et nous défions à commencer à nous ouvrir de plus en plus à Dieu, mais aux autres autour de nous, pour que dans la prière, encercler l'ennemi et avoir la victoire, sans même combattre, parce que le combat a déjà été remporté à la victoire. La victoire est donnée, mais maintenant lève-toi et combat le bon combat de la foi. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux avant de prendre la communion ensemble? Mais c'est trop important ce matin que la parole de Dieu nous rappelle que quand tu doutes de lui, dans la prière, viens et proclame les promesses de Dieu. La parole de Dieu est l'antidote au doute sur Dieu. Quand tu doutes de toi, alors que Dieu te dit non, je t'appelle à prendre des victoires, même dans la prière, l'antidote au doute sur toi, c'est de comprendre que la présence de Dieu est là. Mais l'antidote, quand tu doutes des autres et que tu dis je ne sais pas, est-ce que je devrais m'ouvrir ou pas, l'antidote au doute sur les autres, c'est en fait le peuple de Dieu. Et les groupes que Dieu met autour de toi, c'est lui qui fait le tri. C'est lui qui va te donner en 2023 exactement le groupe que tu as besoin. Mais il va falloir que tu lui fasses confiance. Il a des yeux sur toi et il veut t'emmener à être fort. Mais tu vas être fort en étant fortifié par les gens autour de toi. Arrête de cacher cette lumière. Arrête de vouloir marcher seul. Non, tu as besoin des autres. Dieu aurait pu donner la victoire à Gédéon, lui tout seul. Ça aurait été exactement la même chose. Mais Dieu a décidé de lui dire, c'est avec ce petit groupe que tu vas avoir la victoire. Et la victoire va être célébrée par tout le peuple après. C'est pour ça que le dimanche, quand tu viens et que tu élèves ta voix, ton petit groupe sait exactement la victoire que tu as obtenue. Et toute l'Église se réjouit comme on l'a fait ce matin. Son nom est plus haut, son nom est plus grand, mon espoir est en toi. C'est pour ça qu'on le prie. C'est pour ça que c'est important de venir célébrer avec le grand peuple ici, la grande Église. Mais que tu dois marcher semaine après semaine avec des amitiés saines, avec des conseils sains, dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la prière, dans la communion. Parce que c'est le désir de Dieu pour son Église. Seigneur, je te prie pour que nous puissions être une Église qui nous levons et que nous reprenons les bonnes bases. Que 2023 commence en disant « Aujourd'hui, je monte une marche dans ma vie spirituelle. Je ne veux plus stagner. » Et en ce moment, oui, j'ai peut-être des doutes ici et là, mais je te prie que ta parole vienne m'éclairer. Je te prie que dans la présence de Dieu, dans la prière, tu puisses venir me parler. Donne-moi dans ces jours de prière et de jeûne avec toute l'Église, la grande Église Nouvelle Vie, donne-nous, Seigneur, des révélations pour nous, pour nos familles, pour nos couples, pour nos cœurs, pour nos business, pour le ministère, pour qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie. Seigneur, viens te révéler à nous. Nous te cherchons. Seigneur, je te le dis, on a soif de toi, on veut connaître plus de toi. Seigneur, merci pour la prédication de la parole, merci pour les ressources partout que tu nous donnes. Mais Seigneur, donne-nous d'être connectés ultimement, personnellement à la source qui est ta présence. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages encore aujourd'hui à ne pas combattre seul. Tu nous rappelles que la victoire est en toi, mais tu veux qu'on avance ensemble dans ce combat. Merci Jésus pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus que je prie.